Bonjour Dominique, nous sommes là pour un nouvel épisode des questions qui sont relatives à la disparition des third party cookies. Est-ce que tu pourrais te présenter dans un premier temps?
Oui, bien sûr. Je suis Dominique Pissourt. Je fais de la consultance GDPR via ma société PrivAct déjà depuis environ 4 ans. Et parallèlement à ça, je baigne dans tout ce qui est protection des données déjà depuis plus de 20 ans en tant que juriste d'entreprise dans différentes sociétés qui traitent énormément de données. Et c'est un domaine que je connais bien.
La disparition des third-party cookies, tout le monde en a déjà entendu parler, mais quelles sont les règles qui sont applicables aux cookies?
Alors tout d'abord, pour ceux qui confondraient le cookie avec le petit biscuit, avec les petites pépites de chocolat, le cookie, c'est un petit fichier texte qui est placé sur le disque dur de la personne qui va sur un site internet. Et il est placé soit par le serveur du site, soit par une tierce partie, justement, que ce soit une régie publicitaire, un service de web analytique, etc. Et quand tu me demandes la réglementation applicable, il y a deux volets principaux qui s'appliquent. Il y a l'information de la personne et puis il y a tout ce qui concerne le consentement préalable que l'internaute doit donner au placement ou à la lecture du cookie. Alors, si je dois un peu expliquer les choses, en ce qui concerne l'information, il faut évidemment informer la personne qu'il y a un cookie qui va être placé sur son ordinateur ou sur son appareil au sens large, un GSM ou autre, et il faut expliquer ce que ce cookie va enregistrer, quel est le rôle exact de ce cookie. Si le cookie traite des données à caractère personnel, bien évidemment, toutes les obligations de la GDPR, donc le Règlement général de protection des données, seront applicables, à savoir, par exemple, la durée de conservation du cookie qui va devoir être précisée, les droits de la personne par rapport à ce cookie, etc. Ça, c'est pour tout ce qui est obligation d'information. À côté de ça, il y a une autre obligation extrêmement importante et très visible quand on surfe sur les sites, c'est le consentement préalable de la personne. Alors, ce consentement doit pouvoir se retirer à tout moment et que le cookie soit placé par l'annonceur propriétaire du site web ou par une partie tierce, il faudra toujours demander ce consentement. Il n'y a qu'une seule exception, et l'exception concerne les cookies fonctionnels. Alors, c'est quoi des cookies fonctionnels? Ce sont des cookies qui sont indispensables au fonctionnement du site. Par exemple, tout ce qui concerne le fonctionnement du panier d'achat, les langues, enfin le choix des langues. Dans ces cas-là, exceptionnellement, il n'y a pas à demander ce consentement.
Et comment je peux obtenir ce consentement de la part de l'internaute qui vient sur mon site?
Alors, il faut faire attention parce que ce consentement doit répondre à plusieurs conditions. On va commencer tout de suite par la première, c'est qu'il faut d'abord un acte positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le consentement ne peut pas se déduire, par exemple, par le fait que la personne va continuer à surfer sans cocher une case ou sans donner de consentement spécifique. Une deuxième déduction qui n'est pas autorisée, c'est le fait que dans le browser de mon ordinateur, je n'ai pas empêché le placement de cookies. Ça non plus, c'est pas considéré comme un vrai consentement. Un troisième exemple qu'on voit quand même assez souvent quand on surfe, c'est le système des cases précochées sur le oui. Ça non plus, ça n'est pas un vrai acte positif et donc ça n'est pas un consentement valable. Une deuxième condition, c'est que le consentement doit être préalable. Ça veut dire qu'avant que le cookie ne soit placé ou ne soit lu, il faut que la personne consente. Ensuite, nous avons une troisième condition qui est que le consentement doit être libre. Alors, ça veut dire quoi, libre? Ça veut dire qu'il ne peut pas être conditionné et donc typiquement conditionné, par exemple, à l'obtention d'un service. Par exemple, vous ne pourrez évidemment pas refuser l'accès au site Internet si la personne refuse le placement du cookie. Le consentement, dans ce cas, ne sera pas libre. Ça, c'était pour la troisième condition. Et enfin, la quatrième et dernière condition, c'est que le consentement doit être spécifique. Ça veut dire quoi spécifique? Ça veut dire qu'il faut donner un consentement par finalité, c'est-à-dire par utilisation que le cookie va faire derrière des données de la personne. Alors, ce consentement, bien évidemment, s'il y a des cookies third party, il faudra aussi demander des consentements par finalité. Et l'autorité de protection des données en Belgique, mais les autorités de protection des données ailleurs aussi, ajoutent encore une recommandation assez forte de dire que, idéalement, il faut une deuxième strate de consentement et il faut aussi tiers par tiers, donc demander ce consentement. Donc ça veut dire quatre conditions à remplir, l'action positive, le consentement préalable, le consentement qui doit être libre et spécifique, donc c'est un consentement qui n'est pas nécessairement facile à obtenir de manière valable.
Si je comprends bien, je dois pouvoir gérer ce consentement et l'utilisateur doit pouvoir retirer ce consentement. Comment est-ce que je dois présenter aux personnes la possibilité d'activer ou de désactiver ces consentements ?
Oui, donc tu as tout à fait raison. Il y a cette gestion qui doit toujours être proposée à tout moment à l'internaute. Et donc, l'autorité de protection des données, elle précise que ce consentement, il doit pouvoir être retiré à tout moment et aussi facilement qu'il a été donné. Et d'ailleurs, dès que vous demandez le consentement, il faut déjà préciser comment est-ce que le consentement peut être retiré. Après, on a l'autorité de protection des données en France, la CNIL, qui va même un pas plus loin, puisqu'elle précise vraiment d'un point de vue pratique comment est-ce qu'il faut faire. Et elle dit qu'un bouton qui permet de refuser tous les cookies doit être placé au même niveau que le bouton qui permet d'accepter tous les cookies.
Et dans ce cadre-là, pourquoi les cookies tiers posent un problème supplémentaire par rapport à ces explications ?
Eh bien, parce que, comme je viens de l'expliquer, les conditions qui sont liées au consentement et à l'obligation d'informer les internautes sont déjà assez complexes à respecter. Et quand on parle de cookies tiers, le problème vient de la multitude d'acteurs qui vont intervenir. Comme je l'ai dit, il faut obtenir un consentement par finalité et il faut surtout identifier chacun de ces tiers préalablement. Et la difficulté vient de là. Quand on est dans un système de real-time bidding en programmatique, bien évidemment, c'est compliqué d'identifier à l'avance chacun des intervenants. Et donc, ça veut dire que la certitude que toutes les conditions seront toujours respectées, elle est difficile à garantir. Et donc, ça peut expliquer une certaine frilosité. Après, à côté de ça, je pense qu'il y a aussi simplement les réactions des internautes à partir du moment où on leur laisse le choix de cocher une case et où il y a un pop-up qui sort et où ils peuvent choisir si ils acceptent un cookie first party ou third party, la tentation sera quelquefois grande s'ils décident d'accepter de faire un choix spécifique uniquement pour l'annonceur titulaire du site, mais pas pour les third parties pour lesquelles sans doute l'utilisation est un peu plus vague dans la tête de l'internaute. Ce qui explique que finalement ces cookies third party, ils ont de moins en moins de succès et qu'on obtient très difficilement un opt-in.
Merci beaucoup Dominique pour tous ces éclaircissements sur une matière qui est parfois un peu compliquée à comprendre pour l'utilisateur et pour l'annonceur. Et merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré.
Avec plaisir.